Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Radio
se reproduce dentro de la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène au Mexique ce soir au rayon frais d'un supermarché au milieu des fromages, les camemberts, les manchegos qui ne sont pas d'origine mexicaine. Mais pour les Mexicains, on s'embarrasse pas de ces détails. Vous allez voir comment en 18h45, Trump, saison 2 avec Grégory Phillips, un juge fédéral appointé par le président qui préfère renoncer. La vidéo est terrible et vous comprendrez aussi pourquoi la réforme fiscale torpille en même temps la loi sur la santé. 18h50, Eva Bétan, le film documentaire chinois ce soir, l'envers du décor du miracle économique chinois. 18h55, l'édito du journal Le Monde, c'est Sylvie Kaufmann. Ce soir, on parle de la Pologne en très grande délicatesse avec l'Union européenne. Mais avant, ils sont 16 pays qui ont chez eux des missions de la paix en cours. Plus de 100 000 hommes portent un casque bleu dans le monde pour un budget de près de 7 milliards. On parle de maintien de la paix, de rétablissement de la paix, des casques bleus des Nations Unies.
Fabienne Saint-Est. Un jour dans le monde.
Je donnais quelques chiffres à l'instant, on va y revenir. Les casques bleus, soldats du maintien de la paix. Aujourd'hui, plus de 100 000 dans le monde, présents donc dans 16 pays. Ils viennent de 125 pays différents. Ils payent parfois très très cher leur mission. On va y revenir tout de suite. 15 d'entre eux ont encore été tués. C'était tout récemment en RDC. Les casques bleus, souvent attendus, peut-être trop attendus, parfois décriés, peut-être injustement. Et on va voir ça ensemble. Bonsoir Jean-Pierre Lacroix.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. On va rentrer dans le dur, si je puis dire, aller là où vous êtes, la RDC, le Soudan Sud, la Centrafrique notamment. Un mot d'abord sur les Américains qui ont décidé, vous le savez, de réduire leur participation aux opérations de maintien de la paix. Ils l'avaient promis. Est-ce qu'ils l'ont fait déjà? À hauteur de combien? En gros, combien vous perdez?
Les Américains ont fait pression sur les ressources financières, mais effectivement, on a eu cette année une baisse de nos budgets, une baisse de nos effectifs dans certaines opérations.
Mais en gros, on disait que c'était 1 milliard en moins. Est-ce que ce sera à peu près ça?
On a eu à peu près 7% en moins, environ 600 millions en moins. Mais il faut dire que la pression sur les ressources financières, c'est pas que les Américains et ça date pas du début de cette année. Ça fait longtemps que beaucoup d'États font de plus en plus attention à la manière dont on dépense leur contribution pour le maintien de la paix.
Je vous pose la question parce que lorsque les Américains ont décidé de réduire leur participation, Mike Pence, qui est le vice-président, a eu des mots pas très amènes. Il a dit ceci: quand une mission sera couronnée de succès, nous y mettrons un terme. Si elle n'atteint pas les objectifs fixés, nous la remanierons. Et si une opération se solde par des échecs répétés, nous y mettrons un terme. En gros, ce qu'il dit, c'est quand ça sert à rien, ça sert à rien. C'est peut-être un peu raide comme manière de dire les choses, mais au moins ça a le mérite d'être clair.
Moi, je crois qu'on a une compréhension croissante de ce qu'on fait. De la part des Américains, de cette nouvelle administration, je pense de la part des États membres, et j'espère de l'opinion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On aide au retour de la paix. Comment? En soutenant des solutions politiques, en essayant de les faire aboutir. Et puis, en créant un climat de stabilité, un climat de sécurité suffisant pour que ces efforts politiques puissent aboutir. Et en le faisant, on protège des civils et on sauve des vies. On sauve des vies tous les jours. Nos soldats de la paix, nos civils, nos policiers qui sont dans les opérations ont sauvé des dizaines, peut-être des centaines de milliers de vies.
Mais vous maintenez la paix ou vous maintenez le statu quo? Parce qu'au final, c'est aussi parfois ce qu'on reproche au casque bleu. On maintient un statu quo, on maintient finalement une personne en place. On va aller en RDC, mais c'est l'exemple type. On maintient quelqu'un en place, y compris un Joseph Kabila qui ne se représente pas, des élections qui sont repoussées au fur et à mesure. Et vous, au milieu, qui êtes un peu entre le marteau et l'enclume.
Quand ça réussit, il faut plusieurs conditions. Et la présence d'une opération de maintien de la paix, c'est un outil, mais ça ne peut jamais faire réussir tout seul. Il faut que les partis aient la volonté politique d'aboutir. Il faut qu'il y ait un fort soutien de la part de tous les protagonistes, de la communauté internationale, des organisations régionales, du Conseil de sécurité qui nous donne nos mandats. Il y a eu des succès. Il y a eu récemment la Côte d'Ivoire, où on a pu fermer
partir
la mission cette année. Il y aura, je pense, le Libéria, où le processus électoral des élections libres et démocratiques est sur le point de se conclure. Haïti également, qui est beaucoup plus stable. Mais nous sommes à un tournant, parce que aujourd'hui, nos opérations, nos casques bleus, surtout dans les plus grandes opérations, connaissent souvent des processus politiques qui avancent très lentement. Parce que la volonté politique n'est pas toujours.
La RDC, ça fait combien? 17 ans, 18 ans.
Exactement, même s'il y a eu des périodes plus positives qu'aujourd'hui. Et puis surtout, on connaît un environnement de sécurité extrêmement dégradé. Je vais vous donner un exemple. J'étais récemment en République démocratique du Congo, là où nos 15 soldats de la paix...
Vous en revenez tout juste.
J'en reviens. Dans cet endroit, il faut s'imaginer ce que c'est, ces Muliki, au fin fond de l'est du Congo. Un endroit impénétrable, pas de route, une jungle épaisse, et des populations opprimées par des groupes armés qui sont des pilleurs. Et nous sommes là. Et nous sommes seuls. Et nous les aidons, nous protégeons ces populations.
Seul, ça veut dire trop seul. J'entends derrière ce que vous dites que d'une certaine façon, on se décharge sur vous, les casques bleus, y compris la diplomatie se décharge pour vous en disant « on va envoyer des casques bleus, ça ira peut-être mieux après ».
Il ne faut pas que ce soit comme ça.
Mais c'est comme ça,
il faut pas que ce soit. Je ne le dis pas. Mais ce que je dis, c'est que nous avons besoin d'un soutien politique fort, parce que le but, in fine, c'est de faire aboutir des solutions politiques. Et pour ça, il faut jouer collectif. On a besoin de soutien fort du Conseil de sécurité qui envoie les messages qu'il faut, qui puisse le cacher, y compris faire pression sur les partis. On a besoin de l'appui des organisations régionales. Dans le cas de l'Afrique, on travaille beaucoup mieux avec l'Union africaine ces derniers temps.
80% de vos hommes sont en Afrique, il faut le dire quand même, c'est énorme.
80% de nos hommes sont en Afrique. Donc ça, c'est fondamental. Effectivement, on ne peut pas réussir tout seul. Ça n'a jamais été l'esprit, le but du maintien de la paix.
Mais du coup, qu'il y a... Pardon, allez-y, pardon, finissez.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que on doit pas seulement mettre le paquet sur le petit, on doit aussi monter en gamme, dans nos moyens et dans nos méthodes. Parce qu'aujourd'hui, on est visé par des groupes armés qui veulent dérailler la paix, ils n'ont aucun intérêt à la paix, ce sont des pilleurs. Ils oppriment les populations, ils recrutent les enfants soldats. Et ils nous visent, parce que nous, on les dérange. En République démocratique du Congo, en République centrafricaine. Donc il faut s'adapter, il faut être plus efficace.
Ça veut dire plus de matériel, mais est-ce que ça veut dire aussi, Jean-Pierre Lacroix, est-ce que ça veut dire avoir le droit de tirer? Parce que l'une des choses qui sont toujours paradoxales, et y compris difficiles à comprendre pour les populations, c'est que les casques bleus sont là, mais n'ont pas toujours dans leur mandat le droit de tirer.
Dans nos grandes opérations, notamment en Afrique, les 4-5 plus grosses opérations, nous avons des mandats robustes. On a le droit de se défendre, on a le droit de protéger les populations en utilisant la force robuste. Ça veut dire tirer quand il le faut. La question, c'est avoir les moyens de le faire. Et les moyens de le faire, ça veut dire pouvoir anticiper les menaces. Ça veut dire pouvoir y répondre en réagissant plus vite, avoir des meilleures capacités de renseignement, de mobilité, le meilleur entraînement qui soit également, les meilleures technologies. Et puis, l'état d'esprit. C'est vrai. Nous sommes à un tournant, nous sommes en transition, et aujourd'hui le maintien de la paix n'est plus du tout ce qu'il était il y a 20 ans. Il est beaucoup plus robuste, et nos contributeurs de troupes le comprennent peu à peu, mais il y a un processus d'apprentissage.
Mais ça veut dire que, donc je reprends ma question, ça veut dire qu'il faudrait plus de matériel, je ne sais pas, des hélicoptères, des blindés, des choses comme ça. Ça veut dire qu'il faut mieux former les hommes, mais quand on vient de 126 pays, qui forme les hommes en fait?
Alors, ce sont les pays qui d'abord doivent former leurs hommes et leur fournir le matériel. Mais nous supervisons cette formation et il y a encore des efforts à faire. Et puis nous demandons encore des capacités dont on a besoin et pour lesquelles on a des déficits.
Comme par exemple,
vous les avez cités, des hélicoptères, des systèmes de renseignement d'intelligence, comme on dit en anglais, des unités anti-explosifs, une chaîne de commandement efficace qui demande des officiers d'état-major qualifiés.
Par exemple, en Centrafrique, 900 hommes supplémentaires, 900 à 1000 hommes supplémentaires à peu près. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça a un sens, finalement, quand on voit que ce pays, effectivement, Bangui, la capitale, est relativement sécurisée, puis dès qu'on sort de Bangui, c'est la jungle. Est-ce que ça suffit d'avoir 900 hommes supplémentaires?
Je vais vous répondre en prenant un autre exemple. Je suis allé, il n'y a pas longtemps, pour accompagner le secrétaire général des Nations Unies, dans l'est de la République centrafricaine. Et on a visité des déplacés musulmans qui sont protégés par les casques bleus. Si on n'était pas là, ils seraient tués. Mais nous, on ne veut pas simplement les protéger, on veut qu'ils puissent rentrer chez eux. Et pour ça, il faut plus de force, il faut rétablir l'équilibre des pouvoirs vis-à-vis des groupes armés. Mais il faut aussi des efforts politiques, le dialogue. Ces populations, elles veulent vivre avec leurs concitoyens, quelles que soient leurs origines. Elles veulent la concorde, mais elles sont intimidées par les groupes armés. Donc il faut redresser l'équilibre des forces. Ça, c'est les 900 troupes supplémentaires. Et puis, il faut des efforts politiques locaux et nationaux. Et le maintien de la paix, c'est les efforts politiques adossés aux sécuritaires, adossés aux militaires.
Ça veut dire qu'il entre dans vos prérogatives en Centrafrique ou, tiens, je vais vous ramener au RDC, est-ce qu'il rentre dans vos prérogatives d'aller voir un Joseph Kabila en lui disant maintenant, il faut passer la main, il faut laisser et il faut que les élections, dans un an, puisqu'elles ont encore été reculées, aient lieu mordicus. Est-ce que ça rentre dans vos attributions d'aller le voir et lui dire ça ?
J'ai vu le président Kabila et ce qui rentre certainement dans mes attributions, c'est de lui réitérer les messages qui sont ceux du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui sont de dire il faut que le processus électoral ait lieu. Il y a eu un calendrier électoral qui vient d'être publié, qui prévoit des élections à la fin de l'année prochaine.
Ouais. Décembre 2018, ça devait déjà être en 2017.
Alors, mais il existe ce calendrier, et les Nations Unies, en l'occurrence la MONUSCO, notre opération au Congo, a déjà beaucoup fait pour appuyer la tenue des élections. Mmh. L'enregistrement des électeurs, il est presque fini. C'est nous qui avons très largement aidé ce processus. Et on a dit, on est prêt à continuer, pas seul, avec d'autres, avec des partenaires, l'Union africaine, les pays de la région, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais on est prêt à aider. Et on a donné un calendrier très précis de ce qu'on pourrait faire sur le plan logistique, avec des moyens, etc. Mais pour que ce processus soit mené à bien, il faudra évidemment continuer à encourager cette dynamique. Cette dynamique, elle est encourageante pour le moment, mais on sait que par le passé, il y a eu des déceptions. Et pour ça, il faut l'appui collectif de tous ceux qui peuvent aider pour que ça aboutisse.
J'ai un autre exemple pour vous, parce que c'est un exemple tout récent, au Sud-Soudan, où vous dites, enfin, l'ONU dit désormais, on renouvelle la mission des casques bleus, mais ce sera pour 3 mois pour essayer de pousser une relance de processus de paix. Quand je lis ça, j'ai l'impression de lire aussi, on vous laisse encore 3 mois. Mais si dans 3 mois, c'est pas réglé, qu'est-ce qui se passe dans
Alors,
3 mois ?
Non, je vais préciser. Ce qui se passe, c'est que nous avons décidé de lancer des revues complètes, exhaustive de toutes nos opérations, quasiment toutes, sauf celles qui vont être fermées ou celles qui sont très, très diminuées, très largement diminuées dans nos effectifs, comme au Darfour. Pour revoir tout, les objectifs politiques, le mandat, est-ce qu'il est adapté ? Est-ce qu'on le remplit bien, ce mandat ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Est-ce qu'on est efficace ? Est-ce qu'on est aussi efficace sur le plan de l'utilisation des ressources ? Et ces revues stratégiques, on les fait en séquence et on va le faire. On est d'ailleurs en train de la conduire sur la mission au Sud-Soudan. Donc ce qu'on a demandé au Conseil de sécurité, qui nous donne nos mandats, c'est au lieu de renouveler maintenant, comme ça devrait être le cas en décembre, notre mandat pour encore une longue période, donnez-nous un petit peu de temps. Comme ça, on pourra vous soumettre, vous, Conseil de sécurité, les conclusions de cette revue, de manière à ce qu'on introduise des propositions nouvelles, des idées nouvelles. Parce que c'est ça notre but, notre état d'esprit, c'est introduire de nouvelles idées, introduire de nouvelles méthodes pour être plus efficace, pour être plus réactif, ne pas hésiter à mettre sur la table des idées un peu innovantes.
Comme ?
D'abord, quelles sont nos priorités ? On a tendance à nous demander...
Priorité stratégie aussi.
Nos priorités stratégiques. On a eu tendance dans le passé à nous donner des mandats très larges, trop larges. Et on les appelle
armes de Noël.
C'est ce
qu'on disait au début. Voilà. Donc, envoyer les casques bleus, puis ils se débrouilleront.
Et puis vous allez faire toutes sortes de missions. Et aujourd'hui, il faut se recentrer. Parce qu'on a, comme je dis, des environnements difficiles. Encore une fois, des processus politiques qui avancent pas assez vite. Des environnements sécuritaires... tellement compliqué avec ces populations civiles qui sont si nombreuses à être dans le besoin. Donc, on a besoin de se recentrer sur ces priorités. Et le reste, ça veut dire que ça doit être fait soit plus tard, soit par d'autres. Il faut jouer les partenariats. Ça, c'est aussi un des points clés. On ne peut pas tout faire tout seul, les Nations Unies. Il faut s'appuyer sur les autres, sur les partenaires, l'Union africaine, l'Union européenne, les États qui sont influents, qui ont des moyens, pour soutenir les efforts politiques, pour soutenir nos efforts d'améliorer nos capacités, améliorer nos capacités des contributeurs de troupes, et puis parfois aussi pour mener elles-mêmes des opérations. Parce que les Nations Unies, elles ne peuvent pas mener des opérations d'imposition de la paix. Ça doit être fait par d'autres. C'est l'exemple du G5 Sahel qui se met en place aujourd'hui, la force du G5 Sahel, avec laquelle la MINUSMA, notre opération au Mali, est complémentaire.
Et c'est ça, où du coup on se demande que fait le G5 Sahel, que font les casques bleus, que fait l'armée française dans cette zone très grande, comment les rôles sont répartis entre les uns et les autres.
Il faut voir que dans le nord du Mali, il n'y a pas de présence des forces armées maliennes. Donc la seule présence, les seules présences légitimes de sécurité, c'est l'opération des Nations Unies et puis, pour l'instant, la force Barkhane. Force Barkhane lutte contre les groupes terroristes. Et nous insérons un environnement de sécurité. Est-ce qu'on le fait du mieux que ça pourrait se faire ? Probablement non. Il faut progresser, il faut mieux se protéger, mieux protéger les populations. Mais nous sommes la capacité de sécurité qui assure la stabilité au Nord Mali.
Je ne peux pas vous laisser repartir, Jean-Pierre Lacroix, cette dernière question. Les casques bleus ont aussi été pointés du doigt parfois. Ça a été le cas en République centrafricaine. Ce n'était pas les seuls, parce que l'armée française était dans le cas aussi. Mais il y a d'autres endroits pour des histoires terribles, des histoires d'abus sexuels, des histoires de très grande malveillance vis-à-vis des populations. Est-ce que tout cela, vous savez désormais le régler? Est-ce que c'est réellement réglé?
Les Nations Unies se sont ressaisies. Oui, il faut bien avoir l'esprit que c'est un phénomène qui touche l'ensemble du système. Ce n'est pas que le maintien de la paix.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'encore plus inacceptable quand c'est un soldat de la paix qui se livre à ces abus. Et aujourd'hui, nous sommes ressaisis. On a une politique beaucoup plus forte et les résultats commencent à venir. Qu'est-ce que ça veut dire une politique plus forte? Ça veut dire engager les chefs d'État. Au niveau des chefs d'État, c'est ce qu'a fait le secrétaire général, ça veut dire libérer la parole. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas dans le système des Nations Unies, vous pouvez porter la connaissance de la hiérarchie des Nations Unies, des opérations, une allégation, de manière anonyme. Ça veut dire ensuite sensibiliser toute la hiérarchie. Ça veut dire mettre en garde aussi les contributeurs de troupes, les soldats, la hiérarchie militaire à tous les niveaux. Ça veut dire des mesures de prévention, ça peut être le cantonnement, etc. etc. Et ça veut dire s'occuper des victimes aussi. Nous avons dans les grandes opérations un avocat du droit des victimes, un fonds de soutien aux victimes qui maintenant a été mis en place.
Merci beaucoup Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix avec nous dans Un jour dans le monde. Merci mille fois.
Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le
La suite d'un jour dans le monde au Mexique, au rayon fromage, figurez-vous. Nous sommes aussi aux États-Unis avec Grégory Phillips. Comme tous les mercredis, Trump, saison 2. Un peu de réforme fiscale et une histoire de juge, rapidement, Grégory aussi.
Oui, un grand oral qui tourne au cauchemar.
Voilà, on voit ça dans un instant. Eva Bétan, le film du jour, ou comment le miracle économique chinois a aussi un côté pile.
Exactement. Argent en mer est un documentaire qui nous montre les conditions de travail des ouvriers dans des petits ateliers de confection.
Allez, à tout de suite. Le tour du monde n'est pas fini. Voici Holly Cook, Angel Fire. Holly Cook et que Boy George est le parrain d'Holly Cook, hein. Donc sa filleule, voilà, c'est comme ça qu'on dit Angel Fire sur France Inter. Et oui, parfois il manque des mots. Florence Paracuello sous les radars avec l'info internationale des pages intérieures. On commence au pays du Bitcoin.
Et ce pays, c'est la Corée du Sud qui totalise 20% des échanges mondiaux en Bitcoin et qui abrite pas mal de plateformes de trading en crypto-monnaie. Ça veut dire qu'on peut y acheter et y vendre des bitcoins ou d'autres monnaies virtuelles moins connues. Ces sites sont prisés par les geeks de la finance à domicile, comme Asher qui vulgarise tout ça sur sa chaîne YouTube.
Je vais d'abord vous présenter les places de marché sur lesquelles on va investir. Il y en a trois qui sont assez connues. Et la plus simple d'accès, la plus shift, où c'est vraiment tranquille, on va très rapidement, on peut poser ses positions tranquillement. Il y a plein de petites monnaies qui explosent. Je dirais que c'est Yobit. Voilà pourquoi, si vous avez des petits montants, allez vous amuser sur Yobit. Je pense qu'à moins de 2-3 000 euros, vous risquez rien.
Perdu. Tous les clients de la plateforme coréenne Yobit vont voir leur actif dévalué de 25%. Yobit a fait faillite hier après avoir été piraté. 17% de son capital envolé. Deuxième braquage financier en moins de 8 mois. Plusieurs millions de dollars dérobés. Cette fois-ci, c'est fini. Et ces braquages se multiplient avec la montée des cours du Bitcoin. Un Bitcoin égale 15 000 dollars aujourd'hui en légère baisse à cause de la faillite de Yobit. Mais c'est une paille comparée aux 1000% de hausse depuis le début de l'année. De quoi aiguiser les appétits. 64 millions de dollars volés en décembre sur la plateforme NiceHash, soit 4700 bitcoins. 65 millions l'an dernier sur Bitfinex. Et qui sont les meilleurs braqueurs du moment, Fabienne?
Eh bien, ce sont les Nord-Coréens.
Exactement, missionnés par Pyongyang. C'est à eux qu'on attribue le premier casse de Yobit, la plateforme qui a fait faillite hier. Leur technique, se faire passer pour d'avenantes jeunes femmes sur Facebook ou pour des candidats qui cherchent un emploi, ce qui leur permet d'envoyer des mails vérolés aux salariés des plateformes pour pénétrer dans les systèmes informatiques. Un bon moyen de faire rentrer de l'argent dans un pays privé de devises à cause des sanctions contre son programme nucléaire. Les spécialistes en cybersécurité du monde entier sont sur les dents. Le hacking nord-coréen ne fait que commencer.
Eh ben on y viendra longuement d'ailleurs, tiens, la semaine prochaine dans Un jour dans le monde au Bitcoin, parce que ça prend effectivement des proportions impressionnantes. On passe à l'Arabie Saoudite, Florence, qui vient d'envoyer un nouveau signe d'ouverture.
Et oui, après avoir autorisé les femmes à conduire, après avoir annoncé le retour des cinémas, voici l'avènement du visa de tourisme. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. Seuls pouvaient venir en Arabie Saoudite les pèlerins de la Mecque et de façon extrêmement encadrée, ou les étrangers parrainés par un ressortissant saoudien. Ça ne correspond plus, évidemment, avec ce que le prince Salman veut faire de son pays, avec son grand projet de changement, sa révolution économique de l'après-pétrole et ses visions pharaoniques. Un projet touristique de stations balnéaires dans 50 îles de la mer Rouge, par exemple, qui intéresse le milliardaire Charles Bronson, ou encore Neom, gigantesque ville futuriste censée voir le jour en 2030. Nouvelle frontière de la technologie présentée dans un clip hollywoodien et assez improbable. No set ways of thinking. Pas de doctrine, pas de restrictions, mais un potentiel sans limite. C'est votre page blanche pour ouvrir un nouveau chapitre de l'humanité. Rien que ça. Pour ceux qui veulent changer le monde, évidemment, il va falloir des visas. Tous ceux qui apparaissent dans cette vidéo sont des occidentaux. Mais en attendant de voir des enfants blonds et des femmes en robe légère sur les plages saoudiennes de la mer Rouge, c'est surtout des milliers d'investisseurs que l'Arabie veut attirer avec ce genre de projet, ce genre de communication, et c'est à eux d'abord qu'il va falloir faciliter les choses.
Florence, vous avez parlé de Charles Bronson tout à l'heure, c'était Richard Bronson.
Évidemment,
les auditeurs auront corrigé de même.
Oui, j'ai fait toujours.
Allez, parmi des milliers de vidéos d'animaux qui pullulent sur le net, Florence, dans un moment d'égarement, vous en avez dégoté une.
Oui, c'est une spéciale dédicace à notre rédactrice en chef Marie-Claude Pinson. Pour la bonne bouche, cette vidéo mise en ligne il y a deux jours, vous n'apprendrez rien avec ce qui va suivre et ce que vous allez écouter, si ce n'est que les perruches ont des dons d'imitation. Celle-là, en l'occurrence, fait l'iPhone à chaque fois que ses propriétaires s'apprêtent à quitter le domicile.
Ça n'a aucun intérêt.
C'est une perruche, oui, elle est grise et jaune.
Okay.
Et
elle a un nom, non?
Oui, c'est la calopsite élégante. Okay. Elle s'appelle Lucky. Vous voyez, ça, c'est la vraie sonnerie de portable. Non, mais elle est quand même forte, cette perruche.
Elle est pas loin, mais elle est pas dedans.
Et on espère que la perruche ne sonne pas en pleine nuit, évidemment, parce qu'on peut pas la mettre en mode avion.
Voilà, ou
ni en mode
qu'elle
vibreur.
Prend les messages, puisqu'elle est là. Qu'elle fasse le minimum. Allez, merci. Revenez demain quand même.
France Inter. Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et nous allons au Mexique ce soir. Au Mexique, dans un supermarché, c'est ça que vous entendez derrière moi, nous sommes au rayon fromage. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, regardez donc sur les paquets autour de vous, Emmental, Camembert, Gouda, Manchego, autant de fromages européens, donc très à cheval sur les appellations, vous le savez. Mais dans ce supermarché du Mexique, ces fromages-là n'ont jamais vu l'Europe. Bonsoir Emmanuel Stills.
Bonsoir Fabienne.
Emmanuel, il se trouve que l'Union européenne et le Mexique mènent ces jours-ci des négociations pour actualiser leur traité de libre-échange. Il date de 1996, mais les discussions butent sur ces fameux fromages. Les appellations sont détournées, dit l'Europe. Pas du tout, répond le Mexique. Pas question de changer les noms. On écoute votre reportage, Emmanuel, sur cette dispute en fromagerie.
De dónde viene el queso manchego? Me imagino que non, se hace aquí, non? Es que ni siquiera sé.
D'où vient le manchego? Il est fabriqué ici, non? C'est la question que pose Alma Peña, cliente d'un supermarché mexicain, qui n'avoue connaître que le fromage manchego mexicain, un carré jaune et moelleux. Rien à voir avec le fromage espagnol au lait de brebis. Ces emprunts de noms très courants pour le gouda, le brie, l'emmental, le camembert, le parmesan et tant d'autres fromages sont mal perçus par l'Union européenne qui plaide pour le respect des appellations d'origine protégées. Mais pour le consommateur mexicain, comme Alma, ces noms sont passés dans le langage courant.
Je pensais que le terme manchego désignait un style de fromage. Je ne l'associe pas à une région d'origine, ce sont des noms génériques. C'est comme les Kleenex. S'il fallait changer les noms des fromages mexicains, d'un côté ce serait compréhensible, mais d'un autre côté, il y aurait un peu de confusion pour les consommateurs.
Les Mexicains associent ces noms de fromages aux produits qu'ils aiment, mais la plupart des consommateurs n'ont qu'une idée assez floue des fromages du vieux continent. C'est le cas de Darren, un autre client amateur de produits laitiers mexicains.
Non, je ne sais pas d'où viennent ces fromages. Je sais que le camembert est français, et le gouda hollandais, mais les autres, je ne suis pas sûr.
Ces fromages mexicains affublés de noms européens ne sont pas le résultat d'une usurpation des appellations d'après les producteurs mexicains. Ils sont fabriqués ici depuis longtemps et leur origine se trouve en Europe justement. C'est ce que défend Miguel Ángel García, le président de l'Organisation des entreprises laitières au Mexique.
Évidemment, nous ne pouvons pas dire que notre manchego est un fromage de la Mancha. Mais nous cherchons à préserver l'existence de nos marques de manchego qui se sont forgées une réputation au Mexique. Ces fromages s'inscrivent dans la tradition du manchego mexicain et ils ont tous les droits d'utiliser ce nom d'après nous. Car ils sont produits depuis plusieurs décennies par des immigrés européens au Mexique qui ont adopté l'appellation manchego qui est désormais d'usage courant. Donc nous respectons le droit des Européens de protéger leurs appellations géographiques, mais nous voulons préserver nos fromages lorsqu'il est prouvé que leurs noms sont passés dans le langage commun et qu'ils ne cherchent pas à substituer des produits européens sur le marché mexicain.
L'Europe ne perd rien car il y a au Mexique un public de plus en plus important pour les authentiques fromages européens. Ils ne se trouvent pas au supermarché mais dans les boutiques de style gourmet, comme celle qu'a ouvert Gabriel Chabre, un Français.
On est à Galia Chef, dans la Colonia Roma, un petit bistrot avec une partie boutique traiteur où on vend des fromages, des charcuteries, des pâtisseries.
Dans cet établissement, un camembert français coûte 15 euros et un camembert mexicain un peu plus de 5 euros. Ces deux fromages sont des produits chers pour le consommateur mexicain. Les fromages du supermarché, qui portent eux aussi des noms européens, s'adressent à un public différent. Il n'y a donc pas de confusion ni d'atteinte à la réputation des fromages européens d'après l'industrie laitière. Gabriel Chabre n'est que moyennement d'accord.
On a plutôt une clientèle qui, en règle générale, connaît le fromage, qui va savoir que le manchego, le camembert, etc., il y a différentes qualités. Il y a une différenciation, mais justement, il y a cette approche justement des gens aussi qui ne connaissent pas, qui ne vont pas chercher à connaître le manchego espagnol, parce qu'ils pensent que c'est du manchego comme il y a du manchego au supermarché.
Si les fournisseurs de fromages artisanaux aiment donner des noms européens à leur création, les consommateurs apprécient plutôt une appellation qui montre l'origine mexicaine du produit.
Justement, celui qui s'appelle le Port Salut, nous on l'appelait Tom de Jalapa, pour les clients, pour pas qu'il y ait de confusion et pour donner son honneur au Mexique qui fait un fromage correct et garder la noblesse du Port Salut français.
Pour que les fromages mexicains acquièrent leur propre identité, certains plaident donc pour un changement de nom. Quant au manchego jaune et fondu, il est tellement ancré dans la culture mexicaine que l'Union européenne n'aura probablement d'autre choix que de reconnaître l'empreinte de cette appellation.
Allez, reportage au rayon frais, signé Emmanuel Stills à Mexico. Merci beaucoup, on file aux États-Unis.
France Inter. I will work so hard. Fabienne Saintès. I promise you, it's going to change. Un jour dans le monde.
L'actu en série, le mercredi, Trump saison 2 et Grégory Philips. Grégory, on va pas s'attarder sur la réforme fiscale de Donald Trump, sa grande victoire, sa première grande victoire. Vous allez en parler longuement chez Sébastien Paour tout à l'heure à 19h. Moi, je voudrais qu'on aborde un volet que j'ai pas compris. En quoi cette réforme fiscale est aussi le champ du cygne de la réforme sur la santé de Barack Obama?
Alors en fait, Trump ne tue pas complètement l'Obamacare, mais effectivement, dans les 1097 pages de cette réforme fiscale, il y a une disposition qui est passée un peu inaperçue et qui va sans doute affaiblir considérablement la loi mise en place en 2013 par l'ancien président. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'Obamacare, il y avait une disposition qui incitait notamment les jeunes et les gens en bonne santé à quand même payer une pénalité s'ils décidaient de ne pas souscrire d'assurance santé. Parce que si vous êtes jeune et en bonne santé, a priori, vous n'en avez pas besoin, bah, fallait payer une amende, une pénalité qui pouvait aller jusqu'à $695 par an, parce que sinon c'était les malades et les gens en mauvaise santé qui devaient payer plus cher. Ce dispositif faisait hurler les républicains. Eh bien, l'amende est donc supprimée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pas de pénalité, donc moins de gens qui vont cotiser, donc système affaibli. Trump voulait se débarrasser d'Obamacare avec cette réforme fiscale. Il ne le tue pas, mais il le rend un peu plus fragile, c'est vrai.
Voilà qui est clair. Pendant ce temps-là, Grégory, le 45e président des États-Unis poursuit ses nominations, juges fédéraux notamment. Sauf que là, gros couac.
Oui, alors ça s'est passé mercredi dernier devant le comité des affaires juridiques du Sénat. Matthew Peterson est le candidat présenté par la Maison-Blanche pour être nommé au poste de juge fédéral dans le district de Columbia. C'est un poste très important, vous êtes nommé à vie sur décision du président. Mais pour ça, avant, vous devez passer une audition devant des sénateurs. Seulement voilà, l'entretien d'embauche ne s'est pas passé comme prévu. C'est le sénateur républicain de la Louisiane, John Neely Kennedy, qui pose les questions.
Have you ever tried a jury trial?
I have not.
Civil?
No.
Criminal?
No.
Bench?
No.
State or federal court?
Voilà. Avez-vous déjà siégé dans un procès avec jury? Non. Un procès au civil? Non. Un procès criminel? Non. Dans une cour d'État ou fédérale? Non. Etc. Etc. Peterson est incapable de répondre à la moindre question de droit, technique ou pas d'ailleurs. Séquence très embarrassante pour le candidat qui dure très très longtemps, presque 5 minutes. Finalement, Peterson, qui n'avait aucune expérience juridique et qui était présenté par la Maison-Blanche, a décidé hier de renoncer à devenir magistrat. Il faut dire que la vidéo de son grand oral a été vue des milliers de fois ici aux États-Unis. La Maison-Blanche qui fait valoir que oui, c'était un candidat pas très heureux, mais sur des dizaines, et que les autres ont donné satisfaction.
Voilà, il existe aussi cette vidéo traduite en français. Je vous la conseille effectivement parce que c'est pas piqué des hannetons. Et puis votre président, Grégory, a fait son entrée chez Disney.
Oui, Fabienne, vous êtes déjà allé au parc Disney d'Orlando en Floride?
Bah, évidemment, oui.
Oui. Et dans ce parc, souvenez-vous, il y a une attraction qui s'appelle le Hall des Présidents. Sur une scène, il y a les reproductions un peu comme au musée Grévin, mais avec des robots animés des 45 hommes qui ont dirigé les États-Unis, avec des effets sonores et visuels pour raconter 200 années d'histoire américaine. L'attraction était fermée depuis un an pour rénovation et donc elle a rouvert hier avec évidemment au centre Donald Trump qui a prêté sa voix pour l'occasion. Écoutez.
Ladies and gentlemen, the presidents of the United States of America.
From the beginning, America has been a nation defined by its people.
Voilà, Trump animé chez Disney. L'histoire aurait pu s'arrêter là, Fabienne, sauf que si la voix est authentique et les gestes pas trop mal imités, le visage est, comment dire ça, raté, par semblant. C'est raté. Les commentaires dans la presse et sur Internet sont assez ironiques. Certains trouvent que le robot ressemble au choix à la comédienne qui joue dans Arabesque, au personnage de Biff le méchant dans Retour vers le futur, voire même à la poupée Chucky. Bref, depuis 24 heures, les internautes et la presse s'en donnent à cœur joie. Cette nouvelle attraction est donc, si vous le voulez, visible chez Disney à Orlando depuis hier.
Allez ben, envoyez-nous une photo, tiens, ça nous fera plaisir. On n'arrête pas le progrès, surtout. Merci beaucoup, Grégory Philips. Voici Björk, Bachelorette. Et ça fait du bien de réécouter un petit Björk Bachelorette sur France Inter.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le rendez-vous au cinéma d'Eva Bétan. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
C'est en Chine que vous nous emmenez avec un film sur l'envers du décor du miracle économique chinois. Un film qui s'appelle Argent amer. Il est de Wang Bing. Bande annonce d'abord, on en parle ensuite. Donc Eva, on est où en fait dans ce film ?
Alors, on est dans une ville ouvrière proche de Shanghai et nous suivons quelques très jeunes gens, il y a une fille qui doit avoir quoi, 17 ans, qui quittent leur village de Yunnan pour aller travailler là-bas. Une des premières phrases qu'ils vont entendre à leur arrivée, c'est « l'ouvrier migrant n'a pas le choix ». Migrants, ils sont du même pays. Ils sont appelés migrants, migrants de l'intérieur. Ces jeunes migrants ont donc inventé cette expression « je pars gagner l'argent amer ». On voit leur... C'est pas la Chine des grandes usines, hein, c'est les petits ateliers de confection qui font des vêtements pour enfants, pas pour l'Europe, plutôt pour le reste de l'Asie. On voit les journées de travail interminables, la question de la protection du travail n'existe même pas. On voit aussi la mobilité, on peut les renvoyer du jour au lendemain. Et le plus frappant, c'est leur acceptation d'une sorte de capitalisme qui nous semble sommaire. À cela, très étonnamment, le réalisateur Wang Bing me répond « liberté, ils ont le sentiment de liberté ».
En fin de compte, ce sont les ouvriers que l'on voit dans le film sont libres. Disons que les petits patrons sont libres de les engager, sont aussi libres de les renvoyer. Les ouvriers sont libres de travailler pour eux ou de ne pas travailler pour eux. Disons que c'est le rapport entre patron et employé repose sur une sorte de confiance mutuelle et de liberté, malgré tout.
Qu'est-ce que vous entendez par liberté ? C'est la liberté d'être exploité et la liberté d'exploiter. C'est quoi cette liberté ?
Le principe de fonctionnement est que les patrons les payent, donc c'est un travail à la pièce, et les payent deux fois l'an, donc tous les six mois, et qu'ils s'engagent à les loger, à leur donner deux repas par jour. Mais bien sûr, les conditions sont très 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 modestes et assez difficiles quand même.
D'une manière générale, ça veut dire que la population a totalement intégré le passage à un système capitaliste et qu'il ne le remet pas en cause.
C'est-à-dire qu'au niveau du pays, quelle politique est mise en place Moi, j'ai beaucoup de mal à le dire et je crois que c'est la population non plus ne sait vraiment pas quelle étiquette on pourrait mettre sur ce système. Donc, dans une réalité comme celle-ci, on se dit « bon, on va essayer de gagner de l'argent, de gagner de quoi vivre » dans finalement une réalité face à laquelle on n'a pas de choix ou alors c'est un non-choix.
C'est vraiment très intéressant. Hein. Oui, et voilà, c'est l'acceptation, comme il dit, il n'y a pas le choix. Mmh. Alors, je l'ai aussi questionné pour un sujet que Dominique André avait traité ici, le fait que à Pékin. La ville de Pékin est en train de renvoyer des gens par milliers, même par centaines de milliers. À qui sont ces gens ? À quoi ça correspond ? Voici sa réponse.
Ces jours-ci, des amis m'envoient sur les réseaux sociaux des petites vidéos, des informations. Et apparemment, il y aurait à Pékin un équivalent de 3 200 000 personnes qui sont en train de se faire exclure de la ville. Bien sûr, c'est les chiffres avancés sur les réseaux. Les chiffres réels, bien sûr, on ne les connaîtra pas.
Comment c'est possible ? Comment on dit cette personne est bas de gamme et comment on vient et on l'expulse ? Ça semble incroyable.
Il ne faut pas oublier que la Chine repose sur un système où est en vigueur le carnet de résident qui fait que les gens sont un peu obligés de rester dans l'endroit où ils sont enregistrés. Donc beaucoup de ces populations migrantes qui travaillent par exemple comme à Pékin ne sont pas forcément du coup dans la légalité du fait que leur carnet de résident est ailleurs en province. Donc ceux qui sont les plus facilement visés, ce sont ceux qui, pour travailler malgré tout, sont obligés de vivre dans des endroits de façon illégale sur le plan du logement. Donc c'est les premiers qui vont se faire expulser dans ces moments où le gouvernement décide d'expulser ces populations.
Alors, je précise que l'expression bas de gamme n'est pas de moi, c'est celle qui est utilisée là-bas pour expulser certaines personnes. Donc voilà, on saisit par bribes ce que peut être la condition de vie de gens qui sont considérés comme des migrants dans leur propre pays. Et ça, c'est très frappant.
Ça s'appelle L'argent amer. Le film est signé documentaire, est signé Wang Bing. Merci beaucoup, Eva Bétan.
L'édito du journal Le Monde dans Un jour dans le monde, signé Sylvie Kaufmann ce soir. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Sylvie, la Commission européenne a déclenché ce qu'on appelle l'article 7 du traité de l'Union européenne contre la Pologne face au risque de violation de l'état de droit. Ça veut dire quoi?
D'abord, c'est une première. C'est la première fois que Bruxelles ouvre une telle procédure contre un état membre de l'Union européenne. Ensuite, c'est une décision grave. Varsovie a répliqué en qualifiant cette décision de politique et, soyons honnêtes, le gouvernement polonais a raison. Derrière la dimension juridique, c'est bien une décision politique qu'a prise la Commission aujourd'hui. Elle est politique parce que la Commission européenne, après de multiples avertissements, a décidé d'agir avec le peu de moyens dont elle dispose pour montrer au gouvernement nationaliste conservateur au pouvoir à Varsovie que si l'on fait partie d'un club, en l'occurrence l'Union européenne, il faut en respecter les règles. Et la première de ces règles, c'est l'état de droit qui est le fondement des régimes démocratiques européens. Bruxelles, et pas seulement Bruxelles, mais la grande majorité des 28 États membres considèrent que la réforme du pouvoir judiciaire menée depuis un an à Varsovie menace l'indépendance de la justice et donc, de ce fait, enfreint l'état de droit.
Mais alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Il y a deux étapes dans la procédure de l'article 7. C'est la première qui a été déclenchée aujourd'hui. Dans cette phase dite préventive, Varsovie dispose de 3 mois pour modifier les réformes judiciaires en cause. Si Varsovie ne le fait pas, alors, la Commission organisera un vote des États membres pour constater l'existence d'un risque clair contre l'état de droit. Ce vote doit réunir au moins 22 États membres sur 27, car la Pologne ne voterait pas. Ensuite, si la Pologne ne bouge toujours pas, c'est à ce moment-là, donc au bout de 3 mois, c'est à ce moment-là que sera déclenchée la deuxième phase de l'article 7, celle qu'on en appelle l'option nucléaire. Vous voyez qu'à Bruxelles, on ne badine pas avec l'arsenal stratégique. Et cette fois-ci, il faudra réunir un sommet européen au cours duquel les États membres seront invités à constater à l'unanimité l'existence d'une violation grave et persistante de l'état de droit. À la suite de ce vote, des sanctions peuvent être décidées, comme la suspension des droits de vote de la Pologne. Mais il y a peu de chances, en fait, que cela se produise, car la Hongrie de Viktor Orban, qui est le plus sûr allié de la Pologne à l'heure actuelle, a fait savoir qu'elle voterait contre. Donc, il ne pourra pas y avoir unanimité.
Donc, blocage assuré. Comment on trouve une porte de sortie, une issue à ce conflit avec la Pologne?
C'est bien tout le casse-tête auquel est confrontée la Commission européenne depuis que le parti populiste Droit et Justice a remporté haut la main les élections en Pologne il y a 2 ans. Il n'y a pas de bonne solution. Soit Bruxelles ne fait rien, comme cela a été le cas avec la Hongrie, qui pose le même problème, et alors l'Europe étale sa faiblesse. Soit elle passe à l'action avec l'option nucléaire, et non seulement elle se heurte au risque du veto hongrois, mais cela peut produire l'effet inverse, celui de braquer un peu plus les Polonais. Reste une idée que la France évoque de plus en plus ouvertement, celle des sanctions financières, en agissant sur l'accès aux fonds structurels européens. Alors là, ce n'est plus l'option nucléaire, c'est carrément la guerre ouverte. Mieux vaut donc, avant ça, s'assurer que toutes les voies du dialogue ont été épuisées.
Sylvie Kaufmann du journal Le Monde, merci beaucoup. On va y revenir, tiens, cet article 7 avec Quentin Dickinson, ce sera dans un instant dans le journal de 19h. Le 18-20 continue tout de suite.